Et bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Nowtech. Comment ça va en ce vendredi? Vendredi, le jour où tout est permis dans le mug, le jour du récap de la semaine, où vous pourrez poser des questions. Il y a aussi quand même des articles frais aujourd'hui, on va en parler. Nous sommes le vendredi 19 avril 2024 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, comment vous allez bien ce vendredi matin? Hein, est-ce que vous avez la forme? Où est Guillaume? DTC Guillaume, j'ai pas eu de nouvelles depuis un certain temps, là. Il faudrait que j'en reprenne. Il doit toujours être quelque part dans... Attendez. Ça, c'était Guillaume. Non, ça, c'est pas Guillaume.
Là.
Ça, c'est pas Guillaume.
Le.
Ça, c'est pas Guillaume. Non.
Un salut à tous.
Voilà, il est là, Guillaume.
Un salut à tous.
Voilà, vous êtes rassurés. Vous avez longtemps que j'avais pas fait des bruits avec la table de mixage. Le vendredi, on fait le déstockage des invendus, des articles au rayon frais, la marée en fin de semaine. Des articles un peu pourris. Comment vous allez bien ce matin? Est-ce que vous avez la forme? Est-ce que cette arrivée de l'hiver qu'on vit en ce moment vous plaît? Hein, de ressortir les pulls, c'est cool en ce moment. C'est sympa la météo. Hein? Oh là là, ils ont tout déréglé avec leurs satellites. T'es à la montagne, Chico Babette. Eh bien, écoute, tant mieux pour toi. J'ai vu qu'il reneigeait à certains endroits. Ouais, il faisait trop chaud. Non, mais je suis d'accord. Moi, je suis un peu pour un hiver permanent. On est d'ailleurs, je vais chercher des partenariats avec des fabricants de laine et des pulls marins. Et comme ça, je pourrais en porter toute l'année avec mes petits boutons. Winter is coming. Winter is staying plutôt hein, en ce moment. Hein. Il fait moins 5, il y a 30 cm de neige. Oh la vache. On dirait que tu as le casque Dyson. Ah non, c'est pas le casque Dyson. Ça, c'est un Mézé. J'ai le même casque que Zerator, sauf que lui, il a la version bois qui vaut plus cher. Les conditions sont mieux qu'en janvier. J'aime cette attitude positive. Ça pourrait être pire. Hein? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est tout gelé ce matin. Oh la vache. Ouais, c'est pas un temps ouf hein, en ce moment. Hein. C'est pas un temps ouf. Hier, ça allait à Paris, mais alors ce matin... Bon, et on n'est peut-être pas là pour parler de la météo, hein, quand même. On va faire un... C'est vendredi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la formule du vendredi, c'est encore plus relax que les autres jours. Je sais, Samuel va vous dire, c'est exactement pareil, ça part autant dans les graviers. Mais ce qu'il y a de différent quand même le vendredi, c'est qu'on fait un petit récap de la semaine qu'on va commencer un petit peu tout de suite. La différence est subtile, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Sauf que j'allais dire les graviers sont plus assumés le vendredi. En vrai, ils sont assumés tout le temps. On va faire un petit récap quand même des articles qui nous ont intéressés cette semaine. Qu'on a retenu. Marion vous a parlé effectivement d'Apple qui est en train de revoir ses politiques sur les pièces détachées. Et ça, c'est assez intéressant parce que Apple est souvent attaqué là-dessus. Et a priori, on pourra utiliser des pièces détachées d'occasion plus facilement. J'avoue que je ne suis pas rentré en détail dans l'article. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à re-regarder le mug de Marion de mardi. Le récap de mardi. Ce que j'ai plus suivi, effectivement, Marion vous a parlé des problèmes qu'il y a en ce moment avec les deepfakes et la politique avec notamment les trois deepfakes de nièces, enfin de la famille Le Pen, qui circulent pas mal sur TikTok, qui sont, bah, vous l'aurez deviné, hein, des deepfakes, vous voyez l'image. L'image sur votre écran, qui sont des deepfakes. On a pas mal parlé, effectivement, des problèmes que ça pouvait poser. Il n'y a pas que, d'ailleurs, au FN... je dirais toujours FN, moi. RN ou autre parti politique d'extrême droite. On a vu, alors c'est pas du deepfake, mais il y a eu une polémique dont on n'a pas parlé autour, effectivement, d'une candidate écologiste qui, si je ne me trompe pas, où il y a de la grosse retouche, on va pas dire les choses autrement, qui l'assume complètement, qui dit c'est un peu le seul moyen qu'on a trouvé pour faire parler de nous, ce qui pourrait être très largement débattable. En tout cas, tout ça pour illustrer quand même que les deepfakes sont un gros problème dans la politique. Là, spécifiquement, de mettre des sosies de candidate du RN en plus jeune, en plus sexy. Alors, il n'y a aucune preuve formelle que cela émane de ces partis politiques, mais quoi qu'il en soit, ça leur sert. Parce que, un, ça banalise certains propos et ça s'adresse à un public extrêmement jeune. Extrêmement jeune, qui n'a pas forcément les codes de lecture. Et j'ai envie de dire, quel que soit l'âge, on a parfois du mal à avoir les codes de lecture des réseaux sociaux. Ce qui me permet juste de dire, aujourd'hui, les réseaux sociaux, si on extrait quoi que ce soit des réseaux sociaux, mettez-vous une combinaison entière anti-merde, avec des pincettes, mais c'est même plus des pincettes. Voilà, il faut d'énormes pincettes sur les réseaux sociaux. C'est pas inintéressant, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont atteint un niveau de désinformation, de toxicité, qui est un phénomène en soi, hein, intéressant à étudier. Et les phénomènes vont en s'amplifiant. Il y a des articles que j'ai choisi de ne pas vous faire ce matin, mais en ce moment, il y a des grosses campagnes de désinformation aux États-Unis, orchestrées manifestement, je n'ai pas les preuves, je n'ai pas une équipe d'enquêteurs, mais manifestement par effectivement des groupes russes qui font un peu des grosses campagnes de désinformation, vu que la présidentielle américaine commence à battre son plein. Voilà, et je pense qu'il y a des études de plus en plus sérieuses et de plus en plus poussées sur l'influence des réseaux sociaux, de la désinformation sur nos élections et sur nos démocraties, qui, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, sont en danger, effectivement. Si tu ajoutes à ça la promotion de chips au beurre salé, ref à mon tweet d'hier, effectivement. Donc voilà, ça c'était une news assez intéressante et un peu clivante. Après, parce que je sais qu'il y a eu un peu un débat dans le chat, hein, j'écoutais le live, c'est une problématique, quel que soit le parti politique, d'utiliser des deepfakes afin d'influencer une clientèle politique plus jeune et moins bien armée, quoi. Marion a également parlé de SpaceX. SpaceX qui continue avec effectivement des performances assez incroyables, hein. La semaine dernière, ils ont lancé Falcon 9 tous les jours. Leur fusée réutilisable. Donc, quoi qu'on pense, en tout cas d'Elon Musk, il faut détacher un peu l'homme de l'œuvre, SpaceX continue effectivement quand même sa progression, hein, dans la conquête spatiale et dans la normalisation des vols spatiaux, à suivre. À suivre, à suivre. Marion a également parlé des gros problèmes qu'il y avait sur Twitter avec X qui essaye de faire disparaître le mot Twitter par tous les moyens. Et du coup, quand on tape X dans le réseau social, ça se transforme en X.com, ce qui a donné effectivement lieu à des gros dérapages. Ça donne Netflix Twitter. Bref, c'est pas si facile de changer d'URL. Twitter reste twitter.com malgré toute la volonté d'Elon Musk. Et effectivement, il a beau essayer de forcer les choses qui fait que twitter.com devient x.com, ça peut poser un problème. That short is everything ending in twitter.com. Donc, dès qu'il y a Twitter, ça devient x.com, et ce qui pose des problèmes, quoi. Donc, allez voir, c'est assez drôle. Parce que, par exemple, si vous tapez netflix.twitter.com, vous avez netflix.com. Vous voyez ? C'est assez sale. Assez sale, assez sale. on a parlé également des licenciements chez Tesla, avec un Elon Musk qui dit que ça fait jamais plaisir de licencier, mais c'est pour rendre Tesla plus compétitif. Toujours à suivre. Mais c'est quand même 10% des employés de Tesla qui sont licenciés. C'est pas rien. De toute façon, on est toujours effectivement dans cette mouvance dont on parle depuis plusieurs mois, qu'on appelle pudiquement une concentration dans la tech, où effectivement, moi je pense que, on verra, mais je pense que l'IA joue aussi là-dedans. Et qu'on est aux prémices, effectivement, de vagues de licenciements que va engendrer l'intelligence artificielle. On ne va pas repartir dans le débat. Je sais que l'intelligence artificielle crée aussi des emplois, mais comme je vous l'ai souvent dit, ça va en détruire plus vite que ça n'en crée pendant 10 à 20 ans. Et ça risque quand même de poser un gros problème mondial d'emploi chez les cols blancs. Je continue avec mon pronostic. Et je pense qu'on est aux prémices de ça. Donc, on aura plein d'occasions pour en reparler. On a beaucoup parlé, effectivement, du lancement de l'AI PIN de Human. On va en reparler dans un autre article. Mais Marion, en début de semaine, vous a résumé que c'est un lancement qui se passe pas bien. Effectivement, les critiques sont très mauvaises envers ce produit, disant qu'il ne sert à rien et qu'il ne marche pas, surtout. Alors, à nuancer, parce que les critiques que j'ai vues, c'est actuellement, il ne marche pas. C'est clair, ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Ça ne veut pas dire que l'idée est inintéressante. Il y a quand même quelque chose autour de ces objets IA et on va dire de ces extensions. Le problème pour moi, j'ai déjà donné mon analyse, le problème de l'AI PIN, c'est que ça se veut un produit dissocié pour remplacer un smartphone, ce qui n'arrivera jamais. Ça, je suis complètement d'accord, ça n'arrivera jamais, ça ne remplacera jamais un smartphone. Par contre, je pense qu'il y a une vraie possibilité pour que ça devienne un accessoire intéressant de votre smartphone qui fait que vous ayez moins à le sortir de votre poche et moins à le consulter, ce qui peut être intéressant. Un peu comme une smartwatch. C'est ce que j'ai toujours dit sur les smartwatches. Les smartwatches permettent de moins sortir son smartphone de la poche. C'est ça qui est intéressant, quoi. Mais on en reparlera parce que justement, je voulais revenir sur le. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Marion vous a également parlé des montres connectées qui vont permettre de prendre enfin le métro à Paris. Paris, dernière ville du monde où on a encore des tickets papier. Non, je plaisante, mais pas loin. C'est vrai que Paris est super en retard sur effectivement la possibilité de mettre son titre de transport de façon numérique avec l'utilisation. Alors, il y a eu des problèmes avec Apple et puis ben, on le sait hein, que Île-de-France Mobilité est une machinerie un petit peu lourde à bouger. Après, elle a parlé effectivement de certains problèmes spécifiques. Et moi, je voulais vous donner l'exemple. Vous savez, c'est pour ça que le mug va s'interrompre pendant un petit peu plus d'un mois. Vous savez qu'on part au Japon. Et au Japon, pour les transports en commun, on utilise des Suica Card. Et en fait, je m'en suis aperçu, la Suica Card, soit vous l'avez sur votre iPhone, soit vous l'avez sur l'Apple Watch, mais vous ne pouvez pas l'avoir sur les deux. Ce que j'ai trouvé un peu relou, mais justement, Marion expliquait un petit peu la problématique de ça. Il y aura un petit peu la même manifestement, en tout cas pour l'instant, sur les Android, avec les titres de transport Île-de-France. A priori, d'après l'article, on ne l'aura pas justement sur iOS. Comme quoi, des choses qui nous paraissent simples sont peut-être pas si simples que ça. Je fais une petite pause dans le récap de la semaine pour remercier les contributeurs du jour. Merci Télévor85 pour ton 23e mois d'abonnement. Merci New Golgot pour ton 39e mois d'abonnement. Merci Riri Desbois pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Synode pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Camillette pour ton 33e mois d'abonnement. Merci Velight pour ton 29e mois d'abonnement. Merci Bœuf de Malak pour ton 39e mois d'abonnement. Merci Nizarkani pour ton 43e mois d'abonnement. Merci Ricardo Bellem pour ton 2e mois d'abonnement, ce qui était hier, mais, et Nizarkani aussi. Mais un grand merci encore aujourd'hui. Le train de la hype n'a pas démarré. Mais pourquoi il n'est pas démarré? C'est quoi ce bazar? Bah alors, qui a oublié de mettre du charbon dans le train de la hype, là? C'est quoi ce bazar? On est vendredi et le train de la hype, il n'a pas démarré. J'essaye ma vieille technique de vous engueuler. Hein, au Japon, ça serait inadmissible. Ça serait des excuses publiques à la télévision. Le train de la hype n'a pas démarré. Grève SNCF, pas de train. Ouais, mais que je le sache, le train de la hype n'est pas un train de la SNCF. Non, j'ai arrêté. En fait, moi, je me lasse parfois de certaines formules. Le truc, c'est plus de l'amour, c'est de la rage et tout ça. En fait, ça m'a saoulé au bout d'un moment. Puis, j'arrivais plus à me souvenir quand il fallait dire rage ou machin. Donc, on part sur un truc plus simple. Certains pseudos n'étaient pas un test de dyslexie pour le streamer. J'avoue que certains pseudos, vous ne rendez pas service. Hein. Le train de la jupe, c'est joli, mais délicat comme nom hein, en ce moment. À éviter, hein, le train de la jupe. je suis content que tu passes à un truc plus simple. Bah, en fait, encore une fois, ce genre de truc, ces petites frictions mentales où il faut te souvenir d'un truc en live à faire, à pas faire. Quand on en est à plus de 7 ans, même plus de 7 ans, ça fait 8 ans qu'on fait du streaming, t'apprends à simplifier les choses. Regardez, bientôt le vendredi, il n'y aura plus d'articles, hein, parce que ça aussi, c'est des frictions. Hein. Le train de live vient de démarrer, c'est bon, je peux repartir. Merci Only4Geek67 qui a démarré le train de live avec The Gold Killer et son 12e mois d'abonnement. Merci à vous. Merci Panwerion également pour ton 28e mois d'abonnement. Quels articles? De toute façon, vous venez pas pour les articles, rassurez-moi. Vous venez quand même pas pour une espèce de rigueur journalistique quand même. Non, parce que là, vous êtes trompé de crèmerie, hein. Oh là là, le train de l'hype accélère, on est déjà niveau 2. Accrochez-vous à vos casquettes. Merci, Mister Say, pour ton 20e mois d'abonnement. Merci à toi. Une revue de presse sans presse, c'est plus simple, tout à fait. Ce sera juste une revue. Juste une revue, juste une revue. Allez, on continue dans les articles. Marion a également fêté le 10e anniversaire de Monument Valley. Le temps passe vite. C'est un des, voire le jeu préféré de Marion. Je crois qu'elle a parlé des rumeurs d'une troisième version de Monument Valley, je crois, qui est en préparation. Moi, ça n'a jamais été... Après, je reconnais toutes les qualités esthétiques, poétiques, magiques de ce jeu. Pour moi, ça manque un peu de trucs à poutrer. Mais... moi, voilà, Monument Valley sans Railgun, comme je le disais, c'est pas... Non, c'est pas vrai. J'aime aussi les jeux où on ne flingue pas des trucs. Mais je préfère les jeux où on flingue des trucs. Flinguer, écraser, enfin voilà... pulvériser des trucs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Une revue comme au Moulin Rouge. Oui, bon, les grands écarts, Phileas, on connaît bien. Hein. Ça manque de sang. ça manque de violence, Monument de Valley. Jérôme et son truc en plume, exactement. La grande Zaza. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, c'est moi. Hier, je vous ai parlé, effectivement, juste pour le plaisir. On va se remettre la démo du nouveau robot Atlas de chez Boston Dynamics. Alors, attendez, j'avance un peu dans la vidéo. Je trouve le moment où... Alors, ça, c'est l'ancien... Là, vous allez voir l'ancien Atlas. Ça, c'est l'ancien Atlas. Eh bien, il l'arrête, celui-là. Et il y a le nouvel Atlas qui arrive. C'est pas lui. Voilà, nouvel Atlas. Donc, il est livré couché, mais ne reste pas couché longtemps. Comme vous disiez hier, vous allez pouvoir le ranger sous votre lit. Est-ce qu'il est moins flippant que le premier Atlas ? C'est pas sûr. Après, je trouve le design très réussi. Ce qu'il y a d'intéressant d'un point de vue technique, c'est qu'il va être entièrement électrique. Et il a l'air... Alors, on ne connaît pas du tout son autonomie, mais il a l'air d'avoir, en tout cas, pas le gros sac à dos de batterie. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que là où des compétiteurs, parce que maintenant ça devient très compétitif, hein, le monde de la robotique, il y a beaucoup de startups qui sont sur le coup. Finalement, ce nouveau Atlas, je trouve qu'à la fois il est humanoïde, mais en même temps il n'a pas les limitations du squelette humain. Nous, on ne pourrait pas se lever comme ça. N'essayez pas chez vous. Vous ne pourriez pas vous lever comme ça. Mais du coup, ça va le rendre plus agile que nous. C'est intéressant. L'autre, l'ancien Atlas avait des moteurs, c'était pneumatique, vous m'aviez dit hier, hydraulique. Voilà, il avait des moteurs hydrauliques, et là, tous les moteurs... Alors oui, c'était des moteurs hydrauliques, c'était quand même l'électricité qui les alimentait, mais là, tous les moteurs seront électriques, en fait. Alors, on a déjà eu le débat hier, hein, Robert, pourquoi c'est intéressant de faire des robots qui marchent sur deux jambes ? En fait, l'explication simple... Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des robots avec des roulettes ou des robots à quatre pattes ou à mille pattes, selon la spécialisation du robot. Mais nous vivons dans un monde qui a été construit pour et autour des bipèdes, ce qui d'ailleurs pose des problèmes, notamment pour les personnes en situation de handicap. Mais finalement, si tu veux un robot qui interagit facilement avec le monde des bipèdes, il est intéressant de faire un robot bipède. Voilà, ne serait-ce que des marches d'escalier. Alors, tu peux monter des marches à quatre pattes. Ça m'est arrivé. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vu que l'être humain est bipède, sauf quand il a un peu abusé sur l'apéro. Mais normalement, l'être humain est bipède. Et donc, le monde est construit pour les bipèdes, quoi. La France veut savoir. Après avoir cherché à ressembler à l'homme, les ingénieurs s'en libèrent désormais. Non, ce que je trouve intéressant dans la démarche de... C'est... Bon, le corps humain est une merveille de biologie, mais c'est intéressant de réfléchir sur un robot bipède qui aurait des possibilités que les êtres humains n'auraient pas forcément. Parce que finalement, on le voit bien, à force de faire un robot qui serait exactement comme l'homme, en fait, au bout d'un moment, tu te dis, bah ouais, mais pourquoi un homme sera toujours mieux qu'un robot ? Donc finalement, autant faire des outils. En fait, la définition... Allez, un peu de paléo. On va sortir les hommes des cavernes, les outils et tout ça, hein, le feu, tout ça. Qu'est-ce qu'un outil ? Pour peu qu'on considère, et moi je considère, un robot sera un outil. Un outil nous aide à faire quelque chose où le corps humain est limité pour le faire. Je veux planter un clou, je peux le faire en tapant avec mon poing sur un clou, mais ça fait mal et c'est pas super bien adapté. Boum, j'invente un marteau. Un outil est une extension, en fait, qui permet de réaliser plus facilement quelque chose qu'on ne peut pas faire avec nos limitations biologiques. qu'est-ce qu'un outil ? Vous avez 4 heures. Donc, un robot étant un outil, c'est intéressant de réfléchir. Vous voyez, c'est comme une calculette. Elle calcule mieux que nous, plus rapidement que nous. C'est un outil. À quoi bon faire un outil qui aurait les mêmes limitations qu'on a, en fait ? Il y a une énorme différence entre outil et machine. Et une machine-outil. Une machine... Ouais, on pourrait discuter, mais une machine n'est-elle pas un outil ? Le Vision Pro est un outil. En fait, ça dépend après ce que tu fais avec. Taper sur un clou avec un robot, c'est pas pratique non plus. Fatigué. Les hoodies sont-ils une extension de l'homme ? Oui, seulement s'ils sont portés. Vous êtes fatigant, hein ? Putain, on est vendredi, hein, les gars. Un mixeur, c'est un outil et une machine. Si, mais pas l'inverse. Un outil n'est pas forcément une machine. Je te l'accorde. Non, non, mais parlons sémantique. Hein. Le vendredi, tout est permis. Je suis d'accord. Un outil n'est pas forcément une machine. Mais une machine est-elle toujours un outil ? Ben, ça dépend à quoi on l'utilise. Mais je suis d'accord, un marteau n'est pas une machine. Après, un marteau piqueur... Les outils, c'est pas une tribu. Oh putain. Eh, hey, mais vous êtes chaud pour un vendredi matin. Hein. La voiture est une machine, pas un outil. Si je me sers de ma voiture dans un cadre professionnel, par exemple, je suis un commercial et je me sers de ma voiture pour aller vendre des encyclopédies porte à porte. Est-ce que à ce moment-là, la voiture ne devient pas un outil de travail ? Je pose la question. C'est quoi une encyclopédie ? Meilleure réponse ever. T'as raison, j'ai pris vraiment une vieille rêve de Gen X, quoi. Qui vend encore des encyclopédies ? Après, je suis d'accord, si je prends ma voiture pour aller à la plage, ce n'est plus un outil. À moins que je sois un maître nageur ou un sauveteur, comment on dit ? Enfin, Baywatch, quoi. Là, à ce moment-là, ça redevient un outil. Ça se vend encore en porte-à-porte ? Je ne sais même pas si ça se fait encore, le porte-à-porte. J'ai l'image, je vais mal dormir. Tu me vois courir sur la plage avec une bouée rouge, là ? Ça, c'est une vieille rêve de Yannick. Hein, Baywatch. Oui, oui, je suis d'accord. Très vieille rêve de Yannick, ça. Mais quel rêve ! Tant qu'il y aura des vieux, il y aura toujours du porte-à-porte. Ça fait longtemps, moi, que je n'ai pas eu de démarchage porte-à-porte. Hein. Ça fait 20 ans. Mes parents t'en avaient acheté une pour réussir son examen dans les études. Ouais, non, on avait. Moi, une petite partie de ma petite culture générale vient du fait qu'on avait un plein d'encyclopédies illustrées. C'était bien avant qu'il y ait des CD-ROM, Encyclopédia et tout ça, avant les ordinateurs. Et gamin, ouais, je me plongeais pas mal dans l'encyclopédie. Témoin de Jéhovah, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Hein. Ah, vous en avez, il y en a encore, ça tourne encore. Encarta, ouais. Ouais, les encyclopédies sur CD-ROM, ouais. Après, oui, il y a les démarchages téléphoniques, mais là, on parle du porte-à-porte. L'encyclopédie est-elle un outil ? C'est une bonne question. En fait, c'est la tâche qui définit ce qui est un outil. Est-ce que c'est une bonne définition ? Un outil est défini par la tâche. Un outil ne se définit pas par lui-même, mais par la tâche qu'on lui accorde. C'est toi la tâche. Comment on est parti des robots pour arriver aux encyclopédies ? Aider aux témoins de Jéhovah, les gars. Un vin rouge qui tâche est-il un outil ? Putain, vous êtes chaud, c'est chaud. Hein. Bref. On a parlé, et ça c'est intéressant aussi, de ce qui se passe à Barcelone, qui ont des problèmes de surtourisme, de surmulot et de surtourisme. Non, les surmulots, c'est à Paris. Hein. C'est une exclusivité parisienne, le surmulot. Hein. On y tient, on les garde, c'est nos surmulots. Hein. On ne va pas nous piquer les surmulots. Non, le surtourisme, c'est un problème qui touche de plus en plus de pays dans le monde. Et donc, à Barcelone, ils ont demandé à Google Maps et à Apple Plan d'effacer une ligne de bus que prenaient trop les touristes pour aller voir un endroit à Barcelone, pour un peu rendre à ceux qui habitent à Barcelone, les Barcelonais, leur ligne de bus qui était trop encombrée par les touristes. On a eu un débat là-dessus. Moi, je suis très partagé sur ce genre de mesure parce qu'il y a un moment, je pense que c'est aussi aux municipalités et aux pays de gérer leurs problèmes de surtourisme, non pas en appliquant des espèces de règles contre les touristes. Je sais pas, moi, il y a quelque part, ça me dérange un peu qu'on efface des informations pour les gens qui viennent visiter. Est-ce que c'est pas à la municipalité de doubler ou de tripler cette ligne de bus ou d'encadrer les choses ? Pour gérer, parce que c'est vrai que les touristes, qu'on le veuille ou non, viennent avec leurs devises, participent à la richesse et culturelle et économique des villes. Je ne suis pas fan. Mais de plus en plus de pays, là je lisais un article ce matin sur le Japon, justement, qui pense très sérieusement, et beaucoup de Japonais sont d'accord avec ça, à appliquer des lois de taxes touristiques, c'est-à-dire que même dans les restaurants, un touriste ne paierait pas le même prix qu'un local, que les déplacements, les trains, etc. Je suis pas un grand fan de ces deux poids deux mesures. Là où le Japon a un gros problème spécifiquement cette année, c'est que le yen a dégringolé. Donc en fait, les prix ont augmenté parce que le tourisme augmente, mais les salaires n'augmentent pas au Japon. Donc ce qui fait que les Japonais se retrouvent, et c'est un peu le problème qu'on connaît dans tous les lieux touristiques. Moi j'habite Paris, on sait ce que c'est un lieu touristique, et les prix, enfin... Si tu manges dans certains quartiers de Paris ou si tu prends un café dans certains quartiers de Paris qui sont touristiques, tu t'étrangles avec ton café, quoi. Alors, en vrai, Xafarix, parce que je me renseigne pas mal sur le sujet en ce moment, parce que ça m'intéresse. En vrai, le Japon s'y prend assez mal avec le tourisme et il y a à peine 2% de leur PIB qui vient du tourisme. Donc, en fait, le Japon n'est pas encore un pays qui sait vraiment profiter de sa manne touristique. Le gros problème qu'a le Japon aujourd'hui, c'est que le tourisme se concentre dans certaines zones du Japon et qu'il y a plein d'endroits où les touristes ne vont pas au Japon. Donc, le Japon a un gros travail à faire de promotion de certaines régions du Japon et à diversifier le tourisme pour éviter les engorgements que connaissent aujourd'hui Kyoto, Osaka, Tokyo, Hiroshima dans une certaine mesure. Voilà, il y a un peu... Le circuit touristique, en fait, au Japon est assez restreint. Et si vous avez vu les vidéos de Tev et d'autres influenceurs qui habitent au Japon, ils en parlent très bien. C'est qu'en fait, il y a un surtourisme dans certaines zones. Si vous visitez Kyoto, c'est l'horreur. Certains endroits, c'est l'horreur, surtout dans l'après-midi. Donc, soit il faut les visiter très tôt le matin pour pas avoir du monde, soit chercher des alternatives. Et je sais que moi, dans l'organisation du voyage au Japon, on cherche des alternatives à certains endroits. Voilà. Ouais, le Rail Pass aux États-Unis, au Japon, ils l'ont augmenté, ouais. On va bien le sentir, le surtourisme au JO. Alors, peut-être se détromper. Là, je viens de lire un article selon quoi le prix des locations pour les JO à Paris, là où certains pensaient se faire énormément de beurre en louant au dernier moment leur appart, machin, en fait, ça dégringole. Comme le prix des JO pour les gens qui vont venir voir les JO, tout augmente. Enfin, il y a plein de surcoûts ici et là. Les gens ne sont pas prêts à payer un logement super cher pour prendre les JO. Et je lisais un article, c'est presque divisé par deux les prix des locations parisiennes pour les JO. Donc, ce n'est pas un si bon plan que ça, quoi. Ouais, c'est un sujet en soi, Plobel Makina. Les influenceurs qui ont fait la promotion de certains lieux touristiques qui maintenant sont surchargés. Je suis partagé aussi sur ce sujet-là. D'abord, c'est bien aussi parce qu'il y en a certains qui s'en rendent compte. Il y a beaucoup, par exemple, d'influenceurs au Japon. Moi, je regarde beaucoup les vidéos actuellement de Abroad in Japan, qui est un anglais qui est très connu des Japonais. C'est un anglais qui vit au Japon, je crois, depuis quasiment 20 ans. Et qui, par exemple, lui, fait beaucoup la promotion du nord du Japon, qui est assez peu fréquenté. Et il fait beaucoup de vidéos là-dedans pour promouvoir des choses. Donc, c'est intéressant. Bien fait. Qu'est-ce qui est bien fait chez ? Ah oui, par rapport au prix des locations. Bah, moi, je suis content, d'autant plus que je ne peux pas louer mon logement. Même si je me barre de Paris, je ne pourrais pas louer mon logement. Donc chez. J'aurais moins les boules. Tokyo Lens, d'accord. Un Canadien qui fait ses road trips dans des coins hors des sentiers battus, ouais. Ouais, j'ai vu aussi les vidéos de Bruno Maltor, c'est intéressant. Ah bah si tu veux des graviers, là on est en plein dedans. Hein. Là c'est croustillant de gravier, là. On est à fond dedans. Mais quelque part, nous, la France, le tourisme, on connaît bien. Je trouve que la France fait un assez bon boulot de promotion touristique de certaines de ces régions. Il faut toujours continuer. En fait, je dis ça, mais c'est peut-être... J'ai un prisme déformant, mais je sais que certains de mes amis américains, maintenant, quand ils viennent en France, c'est pas systématiquement Paris, quoi. Ils sont au courant que... Il y a des coins de France hyper intéressants à visiter. Le souci, il faut parler japonais pour faire ça, louer une voiture. Bah, en fait, oui, il y a des coins du Japon où il faut une voiture, mais en même temps, tu vois, par exemple, Bruno Maltor, il parle dans une de ses vidéos d'un petit port qui est très joli, pas très loin de Kyoto. Nous, on a regardé, il y a un bus pour y aller. Il faut aussi se donner les moyens. Nous, on ne compte pas prendre une voiture là-bas. Donc, effectivement, on est limité par les bus. Mais après, bah, voilà, c'est chouette aussi de prendre des bus et des trains. Sur Twitch, il y a Citron Violet qui est top et qui fait ses lives découvertes du Japon. D'accord. Le truc, c'est qu'il y a tellement de sources sur le Japon qu'au bout d'un moment... Ouais, c'est pas si dur hein, de... En fait, il faut faire traduire son permis et tout ça. Si vous voulez louer une voiture... Bon, après, la conduite, elle est de l'autre côté. Hein. Disons que c'est vrai que pour certains coins du Japon, il faut quand même une voiture. Le Japon s'est reconstruit sur le modèle américain dans les années... à partir de 1946... jusqu'aux années 70, globalement, l'infrastructure du Japon s'est reconstruite sur le modèle américain, qui est un modèle très voiture, en fait. Après, la promotion du train au Japon, et c'est vrai que leur réseau ferroviaire est excellent. Hein. Oui, ils ont un très, très bon réseau de train. Hein. Très, très bon, et ils l'ont depuis longtemps. Non, on va pas grimper le mont Fuji, ça m'intéresse pas énormément. Bon, allez, on va pas parler non plus, on en parlera si on a du temps à la fin, mais vous savez très bien qu'on n'en aura pas à la fin, parce qu'il y a plein d'autres sujets. On a parlé aussi des stores alternatifs qui sortent sur l'iPhone. Je vais en reparler un petit peu tout à l'heure dans les sujets frais du vendredi. Je vous ai parlé de nouvelles fonctions sur WhatsApp. On passe. Le premier émulateur, justement, NES sur iPhone, a été retiré depuis quelques heures. Ça aussi, on va en reparler dans les articles frais. Donc, je passe un peu rapidement dessus. On a parlé du téléphone Heineken. C'est juste une campagne de pub, ce téléphone. Pas très, très intéressant. Les articles dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. On va peut-être reparler de MKBHD, à qui on reproche d'avoir beaucoup critiqué l'AI PIN de Human et que les youtubeurs, les gros youtubeurs tech, seraient responsables de faillite de certaines boîtes. Vidéo à laquelle il a répondu, enfin, critique à laquelle il a répondu par vidéo. On en a déjà beaucoup débattu hier. Moi, je voudrais surtout parler de la dernière vidéo de Simon Puech, mais on va garder ça pour tout à l'heure, parce qu'elle est hyper intéressante. Mais dans deux autres sujets frais du jour dont je voulais vous parler, c'est déjà effectivement Vasa 1, qui est un nouveau framework. Je crois que c'est Meta 1 qui est derrière. Attendez, j'ai pas... c'est un article de chez Corben, d'ailleurs. Et c'est assez bluffant. À partir d'une photo, est-ce que je vais vous mettre... Est-ce qu'il y a le son ? Attendez. Ouais, il y a le son. Alors, attendez, je vais essayer de vous mettre le son. C'est comment déjà ? Son iPad. iPad. Propriété. Merde, il est où le son iPad? Il va peut-être être là. Attendez, je regarde si vous avez le son. Non. Bon, je vais mettre le son de l'iPad à fond, vous allez un peu l'entendre dans le micro. C'est pas très propre ce que je fais, mais...
But you can imagine I have a lot of questions. So I'd love to begin with you, firstly, just because I read that you started out in advertising and now you run a wellness business.
C'est assez fou, hein? Attendez, je vous montre en grand. Donc à partir d'une photo...
You know what I decided to do? I decided to focus all my attention, all my time on listening. So instead of doing something else,
ouais, c'est Microsoft, vous avez raison.
Listened and listened. Because I'm a true believer that if you're really bad at something like listening, for example, it only shows you that, hey, you have to practice listening as much as you can.
We introduce VASA, a framework for generating lifelike talking faces with appealing visual affective skills, given a single static image and a speech audio clip. Our model is capable of not only producing lip movements that are exquisitely synchronized with the audio, but also capturing a large spectrum of facial nuances and natural head motions that contribute to the perception of authenticity and liveliness. The core innovations include a holistic facial dynamics and head movement generation model that works in a face latent space, and the development of such an expressive and disentangled face latent space using videos.
Alors, effectivement, c'est, alors là, on est dans l'excito flippant en plein. Oui, ça se voit encore un peu, mais pour une V1, c'est impressionnant. En temps réel, hein. Le truc, il est en temps réel, hein. C'est pas un truc précalculé à l'avance. Alors peut-être qu'on s'apercevra que la démo a été optimisée et tout ça, mais quand je vois l'évolution de certains trucs, j'ai pas de doute qu'on va y arriver. Alors, on voit tout de suite les problèmes de deepfake que ça peut poser. On parlait tout à l'heure des pseudo-nièces des Le Pen, là. On voit les problèmes, c'est-à-dire que n'importe qui va pouvoir prendre la photo de n'importe qui et lui faire dire n'importe quoi. Bon. Vous me direz, certains n'ont pas besoin d'IA générative pour dire n'importe quoi, mais c'est un autre problème. C'est juste à partir d'une photo, ouais. Et oui, parlons de mon métier, quoi. Moi, c'est bon. Pourquoi je me casserais le cul, par exemple, si vous regardez sur Instagram et sur TikTok et les shorts qu'on fait sur YouTube? Très régulièrement, bon, cette semaine on est un peu moins régulier parce qu'on a beaucoup d'autres trucs à faire, mais je fais des formats courts. Ça nous prend un certain temps de les enregistrer. Est-ce qu'on ne devrait pas les générer? Même une vidéo longue, est-ce qu'il y a encore besoin de moi? Je ne sais pas. Je vais pouvoir faire des grâces mat. Ouais. Oui, je l'ai vu, la vidéo de Cyprien. Elle est très intéressante, hein, sur le sujet. Elle est très intéressante. Sa conclusion aussi est très intéressante. Je suis unique. J'essaye de rester vachement open-minded là-dessus. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a ce que je pense et ensuite ce que je présente. Vous voyez, je suis obligé d'y penser, on va dire comme je suis entre deux âges. Est-ce que je ne vais pas arriver à un âge où il ne sera plus possible pour moi de présenter? Mais imaginons que je garde toute ma tête, j'ai encore des choses à dire. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant que je puisse continuer à m'exprimer en faisant parler autre que moi? voyez ce que je veux dire? Et pareil, alors, on va toujours prendre, c'est un peu ce qui peut être agaçant aussi, c'est que sur ce genre de technologie, on va toujours un peu utiliser les personnes en situation de handicap pour donner de la vertu à ces technologies. Mais effectivement, imaginez pour une personne qui est en situation de handicap ou malade ou quoi que ce soit, ça va lui permettre... Mais on voit aussi les dérapages possibles. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire, je vais le dire brutalement, donc préparez-vous, mais on va pouvoir faire parler très facilement les morts. On va pouvoir faire parler les absents et leur faire dire ce qu'on a envie de dire. Parfait pour les dictateurs, mais il n'y a pas que les dictateurs. Donc, bon, après, si vous êtes habitué de la chaîne, on manie, nous, les concepts excito-flippants. Technologiquement, on ne peut pas s'empêcher de mesurer la rapidité des progrès dans ce genre de truc, mais on n'est pas une chaîne inconsciente. On voit aussi tous les problèmes que ça va amener. Les couteaux à double tranchant, on a l'habitude de jouer avec ça sur la chaîne. Hein. On connaît le double tranchant, nous, monsieur. Oui, il y a eu l'émission d'Ardisson où, il réanimait des célébrités mortes pour faire des interviews. Donc oui, on y est, effectivement. Moi, c'est pour ça que je vous dis la seule manière de se prémunir, préparez-vous. Moi, ça y est, l'entraînement mental, il commence à être bon. En fait, je considère maintenant que tout est faux. Je pars du postulat que tout ce que je regarde est faux. Après, si je veux voir si quelque chose est vrai, bah, ça m'oblige à creuser. Ça m'oblige à fact-checker, ça m'oblige à croiser mes sources. Mais quand je vois quelque chose pour la première fois, je pars toujours de l'hypothèse que ce que je regarde en vidéo, en photo, ou ce que j'entends, ou ce que je lis, je pars toujours de l'hypothèse que c'est faux, en fait. Si un couteau est un outil, un couteau à double tranchant est un double outil. Non, mais c'est un outil. Toute technologie est un outil puissant avec lequel on peut se blesser puissamment. Oui, mais je vous invite à prendre même nos vidéos avec scepticisme. Ne croyez pas tout ce que je dis. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tout critiquer. En fait, il y a une différence entre considérer que tout est faux et s'arrêter là et considérer que tout est faux et vérifier. C'est ça, l'attitude positive, c'est considérer que tout est faux et vérifier. L'attitude négative, c'est de dire, ouais, de toute façon, tout est faux et s'arrêter là. Parce que ne plus croire en rien, la vie n'a pas d'intérêt non plus. Ah, de l'algorithme, tu as tout à fait raison et c'est un sujet à part entière. Tout ce qui est généré par IA actuellement est synonyme de mauvaise qualité. J'ai fait d'ailleurs, si vous voulez d'ailleurs voir, je vais dire un truc très surnaturel parce que Marion vient de me dire que ça l'avait explosé, elle vient de voir le format court d'hier. Si vous voulez voir Pierre Ninet en Vers des Sables, allez voir mon dernier format court sur Instagram et TikTok. Voilà, je parle un petit peu de ça. De la qualité liée à l'intelligence artificielle. Et si tout était vrai, c'est pas un bon postulat. Oh, merci à CPI Digital qui offre 10 abonnements communautaires, c'est la fête. Merci Startix également pour ton 7e mois d'abonnement. Merci JB22300 pour ton 32e mois d'abonnement. Le train de la hype étant niveau 3. Merci Artragis pour qui a offert un abonnement communautaire. Merci Mister Sei qui a renouvelé son abonnement, 20 mois d'abonnement. Merci, je crois que j'ai déjà remercié après, ouais. Merci beaucoup à vous, les contributeurs. Ouais, par IA, c'est un peu le nouveau Wish. Un truc fait par IA, c'est forcément de mauvaise qualité. C'est un peu le truc en plastoc, le truc par IA. Pierre Ninet en verre des sables, ouais, vous en ressortirez changé. Tout à fait. Mais, ouais... Après, vous savez que sur la chaîne, je ne suis absolument pas un partisan de se voiler la face. Il ne faut jamais se voiler la face. Ces technologies, on ne va pas pouvoir les arrêter. On ne peut pas débarquer chez Microsoft en disant stop, stop, on arrête tout ça, beaucoup trop dangereux. Par contre, on peut légiférer. Les pays doivent légiférer et légiférer vite, peut-être en s'aidant de l'IA d'ailleurs. Il va falloir qu'on légifère. Je pense notamment, effectivement, à la dangerosité de certains deepfakes, à la protection des images des personnes publiques. Il va falloir qu'on légifère très sérieusement sur le sujet, très rapidement. Ça me paraît clair. Ça me paraît clair. Merci, Sango Riley, pour ton Prime. Un grand merci à toi. Voilà, donc ça, c'était un des trucs que je voulais vous montrer ce matin. Les gifs R. Oh, joli, joli jeu de mots sur Jical Citron. Très joli jeu de mots. Ce que je voulais aussi évoquer, parce que c'est intéressant si on part un peu dans le terrier de lapin de ce qu'on a commencé à faire hier sur justement les App Store alternatifs et le problème spécifique que ça risque de poser. Ce que je n'avais pas creusé hier, mais effectivement, vous avez peut-être entendu parler de Delta, qui est un émulateur qui permet d'émuler des consoles pour le rétro gaming sur votre iPhone. Il est disponible dans les App Store dans le monde entier, sauf en Europe. En Europe, vu qu'en Europe, maintenant, on a des App Store alternatifs, bah, le développeur de Delta l'a mis sur l'App Store alternatif, il ne l'a pas mis sur l'App Store officiel. Donc, on voit très bien où tout ça pourrait nous mener. C'est une fragmentation pour l'Europe, effectivement, des applications. C'est-à-dire que des développeurs vont peut-être préférer... on ne parle même pas du problème de l'émulateur. Nintendo va réagir. On en a parlé déjà hier. Allez voir le sujet d'hier. En fait, si, Nintendo a déjà réagi. Mais parlons plutôt spécifiquement de la fragmentation des apps. Et en vrai, c'est déjà quelque chose qui existe. Ce matin, par exemple, la news est en train de tourner que Apple... On ne peut plus télécharger WhatsApp et Threads en Chine parce que le gouvernement chinois a demandé de bloquer ces applications. Donc, si vous êtes en Chine, à moins d'avoir un VPN, vous ne pouvez plus télécharger ces applications. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? On a des App Store qui commencent à être différents, bloc continental par bloc continental. En gros, on est en train d'arriver à une fragmentation d'Internet. C'était déjà le cas. Mais ça commence et c'est un peu... Alors, certains critiquent justement l'Europe pour ça. L'Europe, avec ses législations, est en train de fragmenter Internet. Attention, l'Europe n'a pas tort et l'Europe a tout à fait les droits de fixer ses règles. C'est pas parce que on n'a pas Apple, on n'a pas Google, on n'a pas fondé ces sociétés, elles ne sont pas européennes, qu'on doit tout accepter. Nous ne sommes pas, jusqu'à preuve du contraire, Nous ne sommes pas dans dans la vassalité des États-Unis ou de la Chine. Eux, ils ont leurs propres intérêts. Nous, on a nos propres intérêts. Donc, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose que l'Europe légifère et impose des règles aux GAFAM. Ce que je dis juste, c'est ce qui risque d'arriver, c'est effectivement qu'on commence à avoir une fragmentation de l'offre dans les applications. On verra sur Jical Citron. On verra. Ça dépend ce qu'offrent les autres stores aussi. Hein. Tu sais, les gens sont prêts à se compliquer un peu la vie si ça permet de payer moins cher. Donc, c'est quand même... L'insularité, la fragmentation est une tendance de fond. Moi, alors, je sais que unpopular opinion. J'aimerais bien que le monde soit complètement unifié, qu'on ait un gouvernement mondial et on n'aurait pas ces problèmes-là. Mais je sais que certains ne sont pas du tout d'accord avec moi. Mais j'ai peut-être trop regardé Star Trek. Mais on n'y est pas encore. Et je ne sais pas si on se dirige vers un monde plus unifié ou si on va revenir en arrière là-dessus. J'en sais rien. Mais en tout cas, spécifiquement sur les problèmes effectivement d'App Store, de décisions autour des technologies, bah, nous, les technophiles, c'est vrai que ça fait un peu rager quand tu vois qu'un truc est disponible aux États-Unis et pas chez nous, quoi. Jamais. Voilà, une bonne invasion d'extraterrestres, on s'unira sous un gouvernement mondial. Il nous manque juste l'invasion des extraterrestres. Est-ce que le problème n'est pas plus Apple que l'Union européenne ? Mais oui, non, mais c'est pour ça. Moi, je suis pas du genre... Enfin, c'est trop facile de dire « Ouais, l'Europe, vous faites chier, machin. » Bah non, c'est Apple aussi qui impose des lois, qui impose des manières de fonctionner avec lesquelles on a le droit de pas être d'accord, quoi. Insularité égale archipélisation des mondes parallèles avec des socles communs, une gouvernance commune. Ouais, non, mais c'est compliqué. C'est très compliqué, surtout quand il s'agit du web. D'un côté, on n'a pas accepté des règles de pays qui sont différentes des nôtres ou de blocs continentaux qui ne sont pas les mêmes que les nôtres parce qu'ils ont leurs propres intérêts. D'un autre côté, y a rien, moi, qui me fait plus rager que de cliquer sur un contenu et on me dit « ce contenu n'est pas disponible dans votre pays ». Ça m'énerve. J'avoue que les solutions pour l'émulateur me gavent. Après, je vais peut-être mettre les 1,50€. Alors, on a parlé des 1,50€ de cet Altstore. Je pense qu'ils ont bien fait de mettre ce péage à 1,50€. Ça évitera à leur serveur de fondre les premiers jours, quoi. Bref. Voilà, ça permet de mettre le doigt sur certains problèmes. J'aimerais aborder maintenant le sujet de la vidéo de Simon Puech que j'ai vue ce matin et que je trouve d'abord extrêmement bien faite. Je connais pas à fond Simon Puech. J'ai regardé certains de ses contenus. J'avais vu sa vidéo sur les caméras cachées dans les locations, enfin, vendues sur Amazon, que j'avais déjà trouvé bien montée. C'est, je trouve quelqu'un qui arrive bien à mélanger grand public et documentaire. On sent qu'il a une très bonne équipe derrière lui. Très chouette. La vidéo est très bien montée, très divertissante à la fois et en même temps, il évoque un certain nombre de problèmes et c'est des problèmes intéressants. Est-ce que vous avez vu la vidéo ou pas ? Bon, en gros, je vais la résumer. Parce que manifestement, certains ne connaissent pas Simon Puech. En gros, il a fait une vidéo dont le titre, c'est... genre, j'ai plus son titre exact, mais en gros, il a piégé des influenceurs avec un produit, un faux produit, qui contient du poison. Et il a demandé à des influenceurs de faire la promotion de ce produit. Et du coup, il démontre à travers cet exercice, ce piège, que malgré les lois qui sont passées sur l'influence l'année dernière, beaucoup d'influenceurs ne contrôlent absolument pas les produits dont ils font la promotion. Et alors, la vidéo peut surprendre, c'est qu'en fait, ce coup monté qu'il a fait, ce piège, il en parle vraiment qu'à partir de la moitié fin de la vidéo. Il parle d'abord de la mise en place des lois influenceurs, de comment ça se passe, et c'est assez intéressant. Il fait parler son agent, qui est Julie, que j'ai le plaisir de connaître d'ailleurs, enfin que j'ai croisé. Il fait parler son influenceur, son agent, des problèmes effectivement qu'il y a autour de l'influence. Et surtout au début, il fait quelque chose et c'est intéressant parce que Simon Puech, il a beaucoup plus d'influence par exemple que moi. Vous savez que nous sur la chaîne, on a passé beaucoup de temps à vous expliquer comment ça marche tout ça. Mais là, c'est bien parce qu'au moins le grand public va être plus au courant. Donc là-dessus, Simon a vraiment eu vraiment raison de faire cette vidéo. Il explique assez bien les flux monétaires du business des influenceurs entre les pubs YouTube, les sponsors, le merchandising, etc. etc. Il parle de la DGCCRF aussi, donc ça c'est très bien. Il parle de pas mal de choses. Et donc, je vais aller jusqu'au bout de sa démonstration. Il a donc conçu un produit, genre un produit de santé, dans lequel, dans la liste des ingrédients, ils ont mis un poison hyper violent dans la liste des ingrédients, qui est du saumon, en fait, c'est un gaz toxique qui tue instantanément, dans la liste des ingrédients. Et il a contacté donc des influenceurs, manifestement plus des influenceurs TikTok, en leur demandant s'ils voulaient faire la promotion du produit. Donc il a construit une fausse agence d'influenceurs. Il a fait des faux échantillons, bien évidemment, il ne leur a pas envoyé un produit avec le poison dedans. Là, ça serait aller un peu trop loin. Il leur a envoyé donc un faux produit. Ils ont fait une fausse page web en décrivant le produit. Ils ont construit l'histoire du produit, une espèce de clinique en Suisse fondée en 1986 par des médecins, etc. Donc, il a donné ils ont fait pas mal de travail. Ça lui a d'ailleurs permis de placer son sponsor dans la vidéo, qui est une app qui vous permet de construire des sites internet. Et c'est comme ça qu'il construit le faux site. Donc, sponsor habilement placé. Mais c'est bien, chapeau. Quand tu arrives à bien intégrer ton sponsor dans ton contenu, c'est parfait. Et pour le sponsor, et pour l'annonceur, et pour le public, très bien. toute façon, honnêtement, cette vidéo est très intelligemment faite. Ça lui permet aussi de lancer un petit concours sur son Instagram pour faire gagner les flacons qui restent qu'il n'a pas envoyé aux influenceurs. Bref, la mécanique est bien huilée. Simon est malin. Simon et son équipe sont malins. Non, je le vois pas du tout. Justement, je veux dire, il est hyper transparent. Il est hyper transparent. C'est son métier. On voit qu'il a une équipe. Une équipe, ça se paye. Il fait une vidéo bien foutue, un sponsor bien intégré. Il relance sur un jeu concours sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est des bonnes pratiques qu'il a. C'est des très bonnes pratiques. Il est très, très fort sur le système. Je termine l'histoire. Donc, il piège des influenceurs avec sa fausse agence et ça marche. Et ça marche. Il montre, alors il demande aux influenceurs de lui envoyer les vidéos qu'ils ont faites, des vidéos courtes pour la promotion du produit. Bien sûr, après il leur a révélé, donc les influenceurs n'ont pas fait une campagne pour promouvoir du poison. Après il leur a dit, bah, désolé frérot, c'était un piège. T'es tombé dedans, ben bah, voilà quoi. Il les a masqués dans la vidéo. On peut en parler, je trouve que le masquage, moi j'en ai reconnu. J'en ai reconnu. Donc là, on pourrait dire... Parce que le problème, on connaît les réseaux sociaux, ils risquent de déclencher des meutes qui vont s'acharner sur ces influvoleurs, ces influenceurs, qui vont en profiter pour un déferlement de haine. Donc, j'espère en tout cas qu'il il a piégé aussi des agences. Et c'est là où la vidéo est aussi intéressante. Ben justement, on va détricoter tout ça. Donc voilà, il a démontré par sa vidéo que les influenceurs acceptent des produits sans vraiment les tester et sans vraiment regarder ce qu'il y a dedans et acceptent d'en faire la promotion. Ce qui est intéressant... C'est intéressant comme démonstration. Ça montre effectivement que les lois qui sont passées l'année dernière ne sont pas scrupuleusement respectées pour l'instant. Parce que un des trucs dans la loi, c'est qu'effectivement, les influenceurs et les agences d'influenceurs ne doivent pas faire la promotion de produits dangereux et s'engagent en gros à vérifier l'intégrité des produits dont ils font la promotion. Alors... J'aimerais ajouter un certain nombre de choses quand même à sa vidéo, peut-être dans le domaine que moi je connais, la tech, parce que là, il parle d'un produit de santé, donc il met du poison dedans, il a fait une outrance pour démontrer le fond du problème, mais on peut avoir ce problème dans la tech, pas forcément avec des produits qui vous tuent, quoi qu'un smartphone qui explose, ça peut être dangereux. Et est-ce que nous, dans les influenceurs tech, est-ce qu'on fait toutes les vérifications nécessaires autour d'un produit avant d'accepter d'en faire la promotion? Et je trouve que c'est là où sa vidéo, et encore une fois, la vidéo est très bonne et il a tout à fait raison. Mais il oublie de parler de certaines choses. D'abord, en fait, il parle de la partie haute du marché, je trouve. C'est-à-dire les influenceurs qui auraient les moyens de vérifier et qui ne le font pas. Le problème, c'est que le marché de l'influence, aujourd'hui, il y a une grosse partie du marché, c'est les influenceurs petits et moyens, qui d'ailleurs n'ont pas forcément des agences. Ou des agents, qui sont souvent tout seuls et qui n'ont pas toujours la capacité de pouvoir, et qui acceptent en plus des promotions à 200 euros. Enfin, ils acceptent de promouvoir un produit, parfois juste en échange du produit. C'est le bas du marché, c'est un marché assez sale, disons-le. Le marché des micro-influenceurs, comme on dit poliment. Mais c'est pas un marché où il y a suffisamment d'argent qui transite pour permettre à l'influenceur, par exemple, d'embaucher une équipe ou d'embaucher un agent qui vérifierait l'intégrité des produits dont il fait la promotion. La deuxième chose qu'il aurait dû mettre dans sa vidéo, parce que moi je sais comment ça marche, le marché, je le vois, c'est que le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de vérifier parfois. Et là, je vais être hyper transparent avec vous. Le nombre de fois où moi je demande à mon agence, ou moi-même je dis, ben, on va voir pour ce sponsor, il faudrait d'abord qu'il nous envoie un échantillon, on aimerait quand même checker le produit avant d'accepter la promotion. Et ça, la plupart du temps, voilà, on demande, ben, envoyez-nous un exemplaire, qu'on puisse tester le produit, et après on vous répond sur ce qui devrait être la norme, on devrait le faire. Ben, vous savez ce qui se passe dans ces cas-là ? Ben, en fait, la marque, elle va avoir un autre influenceur. Et ça nous arrive tout le temps chez Naotech. On a perdu beaucoup de contrats, d'opérations, parce qu'on voulait vérifier des choses ou qu'on prenait trop de temps pour répondre. Et ça nous a fait passer à côté de... Alors, vous allez dire, mais c'est tout à ton honneur, Jérôme. Et vous avez raison, c'est tout à notre honneur. Sauf que, voilà, quand tu as des salaires à payer en fin de mois, ou même le tien de salaire, parfois, on se retrouve dans des situations pas parfaites. En fait, le problème du marché de l'influence, c'est qu'on dit, voilà, ça devrait fonctionner comme ça. Moi, ce que je vous dis, c'est que dans la réalité, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Et que... Parce que ça nous est arrivé aussi. Moi, il y a des produits qu'on a passés en promotion, je le regrette aujourd'hui. Je l'ai déjà dit. Il y a même une vidéo que j'ai supprimée de la chaîne parce que... Après avoir prolongé l'expérience avec ce produit, je l'ai trouvé vraiment mauvais. Mais, en fait, le problème, c'est qu'il y a une responsabilité qui devrait être diluée. Et je vois dans vos commentaires, vous avez tout à fait raison. D'abord, comment ça se fait qu'il y ait certains produits qui sont en vente sur le marché européen ou français? Ça devrait être la première vérification. Alors, je suis peut-être un peu naïf, mais comment on se retrouve avec ces scandales de produits? Je ne sais pas, est-ce que le boulot est bien fait du côté, justement, de la DGCCRF sur les normes des produits? Et effectivement, le premier truc qu'on devrait checker... Est-ce que c'est... Moi, j'en sais rien. Est-ce que c'est fiable, la norme européenne ou la norme française? Voilà. Mais on sait, chaque jour, on entend des scandales autour de certains produits. Voilà. Donc, là, déjà, est-ce qu'il n'y a pas une partie de la responsabilité, déjà, dans les organismes de contrôle de la dangerosité des produits? Donc, là, il y a une part de responsabilité. Il y a une deuxième part de responsabilité, et ça, c'est intéressant, c'est les agences d'influence. Alors, moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Hein ? On dénonce, nous, chez Naotech. Actuellement, le monde des agents et des agences d'influence, c'est le Far West. Vous avez tout et n'importe quoi. N'importe quel qui l'a demain peut dire « Ah, je suis agent d'influenceur, machin, etc. » C'est un Far West, c'est un marché relativement récent, même s'il y en a, ça fait quand même un certain nombre d'années. Et encore une fois, je ne vais pas parler du haut du panier, parce que bien sûr, l'agence de Squeezie, l'agence des grands influenceurs, les grandes agences... Même si tout n'est pas parfait et qu'il y a du lobbying, globalement, elle commence à s'organiser. Mais après, vous avez tout un marché intermédiaire et un petit marché où là, je vous jure, c'est le Far West. C'est un peu n'importe quoi. Et il y a des agences qui sont prêtes à tout pour signer des exclusivités avec des influenceurs et qui n'hésitent pas à le blinder. En fait, comment tu obtiens l'exclusivité d'un influenceur? Tu le blindes de contrat. Tu lui dis, ouais, je t'ai obtenu 3 sponsors, 4 sponsors, 5 sponsors pour le mois prochain. Mais si ton agence, c'est une seule personne ou même deux, tu n'auras jamais le temps de checker vraiment la véracité et de faire toutes les enquêtes. Et même dans le cas du piège, entre guillemets, de Simon et de ses équipes, même si c'était relativement évident que c'était fake, je vous garantis que si vous regardez leur site en 5 minutes et que vous ne checkez pas la liste des ingrédients, c'était disons que le piège était plutôt bien fait. Le piège était plutôt bien fait. Et alors là, je vais parler d'un autre problème, un autre secret du métier que je vais vous livrer. Ah, vous apprenez plein de choses hein, là aujourd'hui. Il se passe aussi la chose suivante, côté influenceur. C'est que les influenceurs n'aiment pas beaucoup laisser de l'argent aux agents d'influence. Et depuis la série 10%, il y a cette espèce d'obsession chez les influenceurs qu'ils ne doivent pas laisser plus de 10% à leur agence ou à leur agent. Et je vais vous dire un truc assez brutal, c'est pas avec 10% d'un contrat d'influence qu'une agence d'influence pourra se payer l'infrastructure nécessaire pour contrôler les provenances des produits. Ah, je suis radical. Le problème, c'est qu'il y a des influenceurs qui... Et je peux les comprendre, on n'aime jamais laisser de la marge à un middleman, surtout quand on considère qu'il ne sert pas à grand-chose. Et je peux vous le dire parce que, hein, entre les petits fours et les cocktails, parfois des trucs d'influenceurs, j'entends des choses. Beaucoup d'influenceurs pensent que leur agence d'influence ne bosse pas énormément et que je ne vois pas pourquoi je leur laisserais beaucoup d'argent. C'est moi qui fais le boulot, c'est moi qui fais la vidéo, et puis j'ai vu la série de 10%, on ne laisse pas plus de 10% à son agent. Ce qui en plus est faux, parce que dans le marché du spectacle, ce 10%, en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc vous voyez, c'est des problèmes complexes. C'est-à-dire, on pourrait dire aussi, la vraie responsabilité incombe aux agents. Ceux et les agents d'influenceurs qui, eux, devraient checker les produits. Parce que l'influenceur, il a déjà fort à faire. Il a les vidéos à écrire, à tourner et tout. Vous ne voulez pas non plus qu'il aille mener des enquêtes sur les produits. Et c'est lui qui risque gros, parce que c'est son image. Vous voyez, c'est pour ça que j'y pense quand même. Dans la vidéo de Simon, on les reconnaît un petit peu, les influenceurs qui sont tombés dans le panneau. C'est eux qui vont perdre beaucoup de crédit, c'est eux qui vont perdre leur image de marque, c'est eux qui vont être dans la sauce. C'est rarement l'agence d'influenceurs. Et pourtant, il le démontre dans sa vidéo, il a trompé aussi des agences d'influenceurs. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus, moi je trouve, mettre toute la faute sur les agences d'influenceurs. Parce que certains influenceurs veulent trop d'argent sur un contrat et ne sont pas prêts à laisser assez d'argent à leur agence d'influence pour qu'elle puisse faire un vrai métier de contrôle des produits en amont. Et je vous dis, en plus, cette série 10% a fait beaucoup de mal parce que c'est ancré dans la tête de certains. Les responsabilités ne s'arrêtent pas là. Bien sûr, il y a les responsabilités de l'influenceur. Mais je vous ai expliqué un phénomène que moi, je connais bien. Moi, je demande à checker en étant humble. Je sais très bien que je laisse passer des merdes. Je vais vous le dire, je vous le redis. J'ai fait la promotion de certains produits que je ne suis pas fier d'avoir promu. Ils m'ont semblé cool au début. Ou alors, je suis allé un peu rapidement en acceptant parce que je n'avais pas le temps de creuser vraiment. Et derrière, je ne vais pas nommer les produits parce que ce n'est pas le but non plus. Et puis, en plus, ça pourrait m'attirer des problèmes. Mais je vous le dis avec toute la franchise dont je suis capable. J'aimerais avoir le temps parfois de tester. Regardez par exemple un produit de problème tech. Un produit tech, la batterie, c'est super important. La résilience d'une batterie dans un problème tech. On fait comment quand on a une à deux heures pour se décider si on prend un sponsor ou pas? Comment voulez-vous que je check si la batterie elle est bonne ou pas? Comment voulez-vous que je check, je ne sais pas, la qualité des plastiques? Comment voulez-vous que je vérifie certaines choses? Donc voilà, moi je suis transparent avec vous, je vous parle aussi des difficultés qu'on peut avoir à vraiment certifier la provenance. Et vous voyez, je vais être humble, si j'étais un influenceur santé, si j'avais reçu le flacon de Simon et de son équipe, est-ce que je serais tombé dans le panneau? Ben peut-être. Peut-être, si je n'avais pas eu le temps de décider si j'étais un micro-influenceur ou un influenceur mal entouré, je serais peut-être tombé dans le panneau. Est-ce que moi, je contrôle la liste des composants de tous les produits qu'on prend en promotion sur la chaîne? Non. Je vais être franc, non. Donc, je trouve que sa vidéo est très intéressante parce qu'il dénonce, et il a raison, un problème. Parce que finalement, les victimes, c'est vous. Et c'est ça peut-être le plus important. Et comment on peut faire, nous, les influenceurs, pour vous protéger au maximum? Parce que ça fait partie de notre responsabilité. Mais c'est là où c'est très important d'être humble. Moi, je peux faire ce que je peux, et je le ferai au maximum, quitte de temps en temps à perdre des budgets, mais je ne peux pas perdre tous les budgets. Parce que sinon, mon business model s'effondre, je licencie tout le monde, c'est-à-dire deux personnes, et je change de métier. Voilà. Moi, aujourd'hui, mon métier, c'est ça. C'est comme ça que je gagne ma vie. En vrai, si je devais contrôler chaque produit qu'on accepte en promotion à fond, j'en accepte plus un seul. Après, et je terminerai peut-être là-dessus, et je trouve que c'est bien qu'il parle de la DGCCRF. Moi, je l'ai dit aux contributeurs hier, parce qu'on a eu le même sujet de discussion avec les contributeurs hier soir dans le live privé des contributeurs. Mais aujourd'hui, je le dis à tout le monde, chez les influenceurs tech, au sens large, YouTubeurs, TikTokers, presse, articles, etc., il y a aujourd'hui un certain nombre de youtubeurs tech qui ne respectent pas les lois influenceurs qui ont été promues l'année dernière. C'est-à-dire que ils ne signalent pas correctement, ça ne veut pas dire qu'ils ne signalent pas du tout, mais ils ne signalent pas correctement que c'est une collaboration commerciale ou que le produit leur a été donné ou échantillonné, comme on dit, ou gifted. Ils vont le dire, mais c'est plutôt encore bien planqué. Le problème, c'est que la loi, elle n'est pas ultra précise, par exemple, sur la taille et la transparence qu'il faut quand on écrit collaboration commerciale. Et donc, certains en jouent. Et du coup, certains m'ont dit, mais donne-nous les noms. Donne-nous les noms. Parce que moi, ce que je prends mal, c'est pas les gens qui me crachent dessus parce qu'on fait des collaborations commerciales. Ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. J'ai l'habitude et je comprends que certains nous crachent dessus parce qu'on fasse des collaborations commerciales. Mais là où parfois je me mords la lèvre ou la langue ou les joues, c'est quand je vois qu'un autre influenceur a fait exactement la même opération que nous, mais comme lui, il ne le dit pas clairement, dans ses commentaires, tout le monde est là. « Ah ouais, toi, t'es honnête. Ah ben voilà, un vrai test. » Non. Il aurait dû écrire « collaboration commerciale » tout le long de la vidéo. C'est une collaboration commerciale. Voilà. Et lui, il ne se fait pas taper dessus. Et lui, il ne se prend pas des dislikes. Donc, nous, on essaye d'être super honnête et de respecter la loi, même avec beaucoup de zèle. On vous l'indique 3-4 fois dans la vidéo que c'est une vidéo sponsor ou alors qu'il y a un placement dans la vidéo. Nous, vous nous connaissez, Naotech, ça fait 7-8 ans qu'on essaye d'être le plus transparent possible sur les placements et sur les vidéos sponsor. On comprend du coup que beaucoup de gens disent « Ah, il y en a marre, les vidéos, elles sont toujours sponso, oh là là, t'es pas objectif, machin. » Bon, ça fait partie du jeu, on accepte. Mais là où on l'a mauvaise, c'est que certains sont sponso et comme ils le disent pas, bah, tout le monde dit « Ah, mais lui, au moins, il est intègre. » Putain, mec. Donc, moi, on me dit « Oui, mais tu devrais faire une vidéo là-dessus et les dénoncer. » Non. Non, parce que je peux comprendre aussi pourquoi ils font ça. D'abord parce que la législation, elle est floue. Donc, ils ne sont pas forcément hors la loi. Il y a encore plein de trucs dans cette loi qui sont sujets à interprétation. Je vais vous dire, on sait très bien que d'afficher collaboration commerciale ou ce genre de trucs, ça diminue vachement les vues. Donc, tant qu'on n'est pas 100% obligé de le faire, bah, je comprends aussi qu'on cherche à pas pénaliser sa vidéo. Si je vous montrais les chutes d'audience qu'on a à chaque fois qu'on parle d'un sponsor dans la vidéo, ça nous crée une espèce de chute d'audience. Et du coup, ça nous pénalise dans l'algorithme, hein, YouTube. On va... Voilà, c'est comme ça. Donc, ne comptez pas sur moi pour dénoncer les gens. Dans ma profession. Je vous ai parlé du phénomène. Par contre, et ça, c'est important. Vous, en tant que consommateur, en tant que visionneur, pour moi, ce n'est pas de la délation que de faire un report à la DGCCRF si vous avez une impression sérieuse qu'il y a tromperie. Pourquoi je dis que ce n'est pas une délation où certains vont dire ah « ouais, voilà, retour de la France, de la France des collabos qui dénoncent les gens ». Non, il faut que vous compreniez une chose. C'est que des mauvaises pratiques faussent le jeu commercial et la concurrence et faussent tout le commerce. Et donc, ceux qui en pâtissent, c'est les consommateurs. Et si vous faites un report... En fait, ce que j'aime pas aujourd'hui, c'est que certains vont dire « Moi, je dénonce pas, mais ils vont quand même laisser un commentaire hyper agressif dans la vidéo » de l'influenceur en disant hey, « Salaud, tu nous prendrais pas pour des cons là, avec ta sponso ?» Alors, ils vont déverser toute leur rage dans les commentaires. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Déjà, ne faites pas de commentaires. Par contre, dites à la DGCCRF J'ai un peu l'impression que là, il y a une pratique commerciale douteuse sur telle vidéo. Parce que la DGCCRF est le seul organisme habilité à mener une enquête. Et mener une enquête, si le mec n'a rien à se reprocher, il ne se passera rien pour lui. Alors que d'aller juste déverser votre bile et votre haine dans les commentaires ne sert absolument à rien et ne changera rien. Salut Gosnik, désolé, on est dans un débat enflammé. Si vous faites une avance rapide sur le sponsor, on le voit dans le creux, hein, que vous n'avez pas regardé le sponsor. La DGCCRF, vu les moyens qu'ils ont, ça sera réglé dans 10 ans. Ce n'est pas tout à fait vrai. En ce moment, par exemple, la DGCCRF a fait des enquêtes sur des influenceurs. Alors, pour l'instant, ils s'occupent surtout des TikTokers. Mais il y a des amendes qui sont tombées. Hein. La DGCCRF fait des enquêtes. Et je vais vous dire ce qui est important. Vous dites oui, mais quand même, c'est de la délation. Je comprends, il y a un côté dénoncé. Mais en fait, le pire à faire, c'est de ne pas dénoncer à la DGCCRF et d'aller pourrir les commentaires de l'influenceur ou de s'acharner sur un influenceur qui a des mauvaises pratiques dans les réseaux sociaux. Ça, c'est le pire. Parce qu'en fait, vous faites rien. Vous faites que vomir sur quelqu'un sans même essayer de changer les choses. Qu'est-ce que je pense des outils comme Sponsorblock qui sont de plus en plus utilisés? Je comprends que ça soit de plus en plus utilisé, mais oui, je vais pas vous mentir, c'est de l'argent en moins pour nous. Alors, certains vont dire, ouais, vous en avez déjà beaucoup, donc je me permets d'utiliser Sponsorblock. C'est votre raisonnement, je peux le comprendre. Et je blâme pas les gens qui utilisent des adblocks et des sponsorblocks, je comprends. Mais spécifiquement, par exemple, dans la tech, pourquoi nous, on a parfois beaucoup de mal à négocier des contrats? C'est parce que les annonceurs savent très bien que dans la tech, les gens qui écoutent et qui regardent et qui s'intéressent à la tech ont un arsenal anti-publicitaire qui fait que nos vues publicitaires sont très basses, en fait. C'est juste pour vous expliquer que utilisez ce que vous voulez. C'est votre problème. Mais soyez conscient de ce que ça fait. C'est tout. Quand tu fais un commentaire sur une vidéo planquée derrière un pseudo, c'est une délation publique. Donc, on ne peut pas dire DGCCRF, délation, sans avoir l'autre côté qui est similaire. Oui. En fait, oui et non, arrobas. Mais attends, encore une fois, moi, je me mets à votre place. Et je vais même vous dire, il m'arrive aussi d'accélérer sur des sponsors de collègues. Mais en fait, comprenez que nous, ça se voit que vous regardez pas le sponsor, et du coup, vous vous dites oui, mais c'est pareil, t'es payé quand même. Oui, mais moins on a de vues sur les sponsors, moins on arrive à décrocher des contrats avec les sponsors. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Moi, je vous explique juste comment ça marche. J'ai pas de jugement. Moi, si un jour le métier n'est plus rentable. Je parle de rentabilité, hein, je parle même pas d'enrichissement, mais si le métier, j'y arrive plus, j'arrêterai, c'est tout. Et ça doit pas être votre problème non plus. Mais simplement, tombez pas des nues si certains créateurs de contenu arrêtent parce qu'ils y arrivent plus, financièrement. En fait, je comprends que faire un report à la DGCCRF, vous voyez ça comme une délation. Là où je vous dis que vous avez une importance, c'est que il faut protéger les consommateurs. Et une pratique d'influenceurs qui s'apparentent à de l'arnaque. Ça peut être très dangereux pour certains consommateurs qui vont tomber dans le panneau. Donc, il y a une forme quand même de responsabilité à faire un report à la DGCCRF. Et encore une fois, là où vous faites bien en le faisant à la DGCCRF, c'est qu'au moins la DGCCRF, ils sont légalement habilités à mener une enquête. Vous, vous n'êtes pas habilité à mener une enquête. Oui, les annonceurs voient quand les gens passent les sponsors, bien sûr. On a ça dans les stats, hein. Le modèle est bizarre. C'est intéressant ce que tu dis. Le modèle est bizarre quand même. Se contraindre à regarder une pub qui ne nous intéresse pas ou peu pour soutenir un contenu qui nous plaît. Ça a toujours été le modèle publicitaire, un peu ou prou, depuis que la pub existe. Et la pub existe depuis que le commerce existe. Donc, simplement, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de sauter la pub beaucoup plus facilement. Donc, en fait, c'est pas un problème nouveau. C'est le marché publicitaire qui permet d'avoir du contenu « gros guillemets gratuit ». Est-ce que c'est pas à nous, consommateurs, de chercher un peu plus loin que notre bout du nez et comprendre que c'est à nous de savoir si telle ou telle chose est OK, mensonge, arnaque ? C'est pour ça que... Je disais, la responsabilité, elle est un peu dans tous les acteurs du marché. Ne tombons pas... Après, je comprends, et vraiment, encore une fois, la vidéo de Simon, elle est impeccable. Mais on ne peut pas s'arrêter à la vidéo de Simon, parce que si on s'arrête à son titre, c'est un peu... Et c'est normal qu'il ait fait un titre comme ça, sinon vous n'auriez pas vu la vidéo. Vous n'auriez pas regardé la vidéo. Mais, en gros, la vidéo pointe les influenceurs, comme uniques responsables du problème. Dans la vidéo, il explique bien déjà que c'est une responsabilité diluée. Moi, j'explique encore un petit peu plus que c'est une responsabilité diluée. Et 9h42, je sais que certains voulaient poser des questions tech. Donc, essayez de glisser des questions tech dans les réactions. Je vais essayer de les choper, qu'on termine pas plus tard que 10h. Alors, mec Graphie, je suis 100% d'accord avec toi. Moi aussi, je paye YouTube Premium et j'aimerais que YouTube trouve un moyen technique de faire sauter les sponsors dans les vidéos ou de ne pas montrer les vidéos qui sont entièrement sponsorisées parce que je paye YouTube Premium. Pour moi, normalement, je ne devrais pas voir de pub. Aujourd'hui, et je le dis, moi, si j'avais les moyens techniques que les abonnés YouTube Premium puissent sauter automatiquement nos moments sponsors ou ne voient pas nos vidéos sponsorisées, je serais 100% pour. Mais il n'y a pas de moyen aujourd'hui technique offert par YouTube pour le faire. Comment les abonnés YouTube Premium te rapportent de l'argent ? En fait, une vue premium nous rapporte beaucoup plus d'argent même qu'une vue publicitaire. Donc, ça, ouais, en fait, les vues premium nous rapportent plus d'argent que des vues publicitaires. Donc, oui, elles sont comptabilisées. Faudrait développer une extension qui détecte les sponsors avec l'IA. Oui, YouTube pourrait, honnêtement, YouTube techniquement pourrait le faire. Hein. Vous permettre, si vous êtes YouTube Premium, de ne pas voir les coupures sponsors qu'on a dans nos vidéos. Ça serait relativement facile. En fait, le problème, et ça je vous en ai déjà parlé, c'est que s'il commence à y avoir ça, on va arriver dans la pire forme de publicité qui arrive. C'est-à-dire que les créateurs de contenu qui ont toujours besoin d'argent pour continuer à faire leur boulot vont se mettre à diluer le sponsor tout au long de la vidéo. ça sera beaucoup moins identifiable. Et c'est ce qui va et c'est ce qui arrive déjà avec SponsorBlock, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est des connards, nous. On sait bien que vous utilisez SponsorBlock. On le voit d'ailleurs, même dans les stats, que vous utilisez SponsorBlock. Bah, je peux vous le dire, certains YouTubeurs, pour combattre les SponsorBlock, maintenant, ils vont diluer leurs sponsors, ils vont le saupoudrer sur toute la vidéo. Interdisons la pub tout court. Bah, à ce moment-là, on tue tout le contenu gratuit. Est-ce que vous êtes prêt à payer tout le contenu que vous regardez? C'est une vraie question. Est-ce que vous êtes prêt à payer? Parce que si tu tues la pub, qu'est-ce qu'on met comme financement à la place? C'est viable si les spectateurs sont tous prêts à payer. Je peux vous le dire, hein, y a plein d'expériences qui ont été faites. Déjà, les spectateurs ne payeront pas. Je peux vous le garantir. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Ça dépend du prix, machin. On va être là à faire des discussions de marché. À combien vous évaluez le prix de machin? Ça sera toujours trop cher. Et la majorité des gens vont déclarer qu'ils vont payer, mais ils ne le feront pas. Alors, parlons-en, non mais soyons open là-dessus. Je suis désolé, hein, si certains ont des questions tech, j'ai pas vu vos questions tech, n'hésitez pas à les reposer. Mais là, on est à fond sur le sujet. Parlons d'une taxe audiovisuelle. Alors, est-ce que vous êtes pour qu'il y ait un impôt qui paierait les YouTubeurs et les TikTokers et les Instagrammeurs? Vous êtes pour qu'on lève une taxe avec une juste rétribution, genre, voilà, taxe audiovisuelle? Sûrement pas, bien évidemment. Non, 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 non. Je vais vous dire, moi aussi, hein, je suis contre. Hein. Vous savez, le problème du prix que vous êtes prêt à payer pour regarder du contenu, c'est exactement le même débat sur le nombre de pubs que vous êtes prêt à voir. Ça sera toujours trop. Ça sera toujours trop. Voilà. Donc, on peut en discuter des heures et des heures. De quel prix vous jugez raisonnable ou quel nombre de pubs vous jugez raisonnable. Je vous garantis que ça sera toujours trop. TikToker, Instagrammeur, c'est pas un vrai travail. Écoute, Ashiko... Je peux comprendre ton point de vue, mais par exemple, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont compris que créateur de contenu sur YouTube, pour pas dire YouTuber, bah c'est un métier, parce qu'on voit le boulot derrière. En fait, je pense que TikToker, Instagrammeur, c'est un métier. Mais simplement, on voit pas encore le travail qui est fait derrière. On voit le résultat et on se dit « Oh, c'est facile, je pourrais le faire. » Mais je te garantis que c'est du boulot. Et peut-être pas tous, mais certains, ceux qui font ça sérieusement et qui essayent d'en vivre, c'est un métier. En termes de temps de travail, on ne va pas partir sur les trucs de la pénibilité. On fait un travail génial, qui n'est pas si pénible que ça. Il y a des travaux, il y a des vrais boulots beaucoup plus pénibles que ça. C'est des débats, on les a depuis 10 ans. Je ne veux pas me battre là-dessus. Mais bien sûr, on a un travail beaucoup moins pénible que d'aller dans la mine. On a un travail beaucoup moins pénible que de travailler dans les champs. On a un travail beaucoup moins pénible qu'un ouvrier. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. On a un métier passion, c'est une chance incroyable qu'on a. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Et ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait est agréable. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. On est un peu comme vous. Il y a peut-être des parties de votre boulot que vous aimez bien. Après, je peux entendre. Il y a des gens, leur boulot, c'est 100% ils détestent. Et qui sont obligés de le faire parce qu'il faut bien vivre. Et franchement, je pense à vous. Parce que je l'ai fait aussi dans ma vie. Pas longtemps, j'ai eu cette chance, mais je l'ai fait. Mais après, je pense que pour la majorité d'entre nous, on a des parties de nos boulots qu'on aime bien, puis on a des parties qu'on n'aime pas. Moi, la vérité que je vous apporte, c'est que j'ai abandonné un boulot beaucoup plus lucratif pour faire celui-ci. Donc, bien évidemment que c'est un métier génial, parce que j'ai abandonné beaucoup d'argent pour venir faire un métier où j'ai beaucoup de mal à faire de l'argent et où je travaille beaucoup plus tard et beaucoup plus qu'autrefois. Mais, cela étant dit, même si c'est un boulot passionnant, il y a des parties de ce boulot qui sont reloues de chez reloues et que je déteste faire. Chacun son site, son sandwich en soi. Non, mais il n'y a pas, en fait, le boulot 100% parfait où tout est génial, ça n'existe pas. Vous savez, on ne va pas retomber. Enfin, c'est des débats éternels. Footballeur, ce n'est pas un vrai métier. Il gagne des sommes indécentes. Les stars à Hollywood, je ne comprends pas qu'ils fassent des dépressions. Enfin, tout métier a des upsides et des downsides. Il y a des métiers où on gagne beaucoup d'argent. Il y a des métiers où on ne gagne pas beaucoup d'argent. Il y a des métiers plus ou moins pénibles. Il y a des métiers plus ou moins dangereux. C'est un débat qui tourne en rond, en fait. L'herbe est toujours plus verte dans le jardin du voisin. C'est un vieux dicton. Il n'y a pas plus vrai que ça. Ce que je peux juste vous dire, c'est que dans le monde de l'influence, vous, vous voyez le haut du panier. Vous voyez des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Vous en voyez certains qui sont à Dubaï, qui se prennent la flotte. Chez. Désolé, hein, mais quand j'ai vu ça, c'est la première réaction que j'ai eue. Bon, bref. Vous voyez le haut du panier. Vous voyez, c'est un peu comme les chanteurs ou les acteurs. Vous voyez les richissimes. Chez les influenceurs, d'une manière générale, je vais vous faire le nombre de gens vraiment riches grâce à l'influence. À mon avis, ça ne va pas plus loin que ça. Vraiment riches. Ce qui est déjà pas mal. Une cinquantaine. C'est déjà pas mal. En fait, le gros du marché de l'influence, c'est des gens qui ont du mal à faire un SMIC. Et c'est ça, je reviens un peu sur la vidéo de Simon. Il parle un peu du haut du panier. Il parle du marché de l'influence et des influenceurs que Boba a attaqué, etc., qui sont des gens qui vendent des opérations à 10 000 euros. Je peux vous dire qu'une OP à 10 000 euros, ça ne pousse pas sur les arbres. Mais, voilà, nous, notre chaîne, on a quoi, 350 000 abonnés sur YouTube. On fait entre 20 000 et 200 000 vues, selon les vidéos. Des OP à 10 000, je prends. Même s'il y a du poison dedans. Ce que je veux dire, c'est que les prix... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'influenceurs. Heureusement, soit qu'il y a papa-maman qui est derrière... Soit ils sont déjà propriétaires de leur logement, donc ils n'ont pas de loyer à payer. La grande majorité des influenceurs ne roulent vraiment pas sur l'or. Donc, c'est un peu, c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu comme le monde des acteurs, des chanteurs et tout. On voit le haut du panier, on voit le star system, mais chez les acteurs, chez les chanteurs, chez les musiciens, le gros du métier, c'est plutôt des gens qui galèrent. Pour revenir sur la vidéo, il y a tout de même de nombreux biais. Elle n'est pas parfaite, la vidéo de Simon. Justement, si j'en parle depuis hyper longtemps, là, il est bientôt 10 heures, c'est... moi aussi, j'ai trouvé qu'il y avait des imperfections, parce que moi, je suis de l'autre côté de la barrière, donc je vois des choses. Je trouve qu'elle est très bien faite. Et elle a déjà le mérite d'ouvrir le débat et peut-être d'ouvrir au grand public le problème. Et je comprends que Simon parle du haut du panier, parce que on... voilà, ça demande beaucoup plus de temps de vous parler des subtilités de ce qu'il raconte. Dans une vidéo, on ne peut pas tout vous dire. C'est un reportage qu'il a fait. Bien sûr qu'il y a un angle. Badal, alors elle est où ta question? Surtout que tu me dis que j'ai une méga commande à faire sur Amazon. Utilise bien notre lien d'affiliation. Petite question, votre lien affilié Amazon, il vous rapporte... Ouais, quoique, oui, tu peux commander tout ce que tu veux. Si tu gardes bien tes cookies et que tu as utilisé notre lien d'affiliation, on touchera une commission quoi que tu achètes. Parce que Amazon considère que tu es venu de notre part chez Amazon. Et du coup, quoi que tu achètes chez Amazon, on touchera une petite part. Merci en tout cas beaucoup, Badal. C'est vrai que ça aide la chaîne, ça. Le cookie reste 24 heures, ouais. Bah, merci beaucoup, Badal. Bon, on aurait encore beaucoup de choses à dire. Le lien d'affiliation, je crois que si tu tapes point d'exclamation Amazon, tu as le lien d'affiliation général. C'est ça, Samuel ? Point d'exclamation Amazon ? Non, merde. Si, c'est ça. Bon, Samuel vient de vous le mettre. C'est point d'exclamation AMZ, pas Amazon en complet. Point d'exclamation AMZ. Et là, en fait, vous avez le lien d'affiliation. Si vous cliquez dessus et que vous passez par un navigateur, vous, en gros, tout ce que vous achetez chez Amazon. Donc, mettez ce lien en favori si vous voulez aider la chaîne. Mettez-le en favori et voilà, à chaque fois que vous achetez un truc chez Amazon, ça nous aide. Et ça ne vous coûte pas plus cher. Alors, ouais, on pourrait... C'est intéressant ce que vous dites parce que... Je vous ai parlé tout à l'heure que le marché de l'influence, c'était un peu le Far West. Le truc, c'est que les grosses agences d'influenceurs, en ce moment, font aussi beaucoup de lobbying. Et c'est le jeu, on va dire, pour concentrer le marché. En gros, on est en train d'assister à une construction d'un marché, comme le marché publicitaire qui s'est construit entre les années 70 et 80 en France. On est en train de voir des grosses agences d'influenceurs devenir dominantes, écraser les petites agences d'influenceurs, justement en dénonçant des mauvaises pratiques d'influence d'agences d'influence qui n'auraient pas les moyens de suivre les lois que ces grosses agences d'influenceurs sont en train de lobbyer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là où il y aurait beaucoup de choses sur lesquelles il faudrait parler. Et quelque part, ça s'est toujours passé comme ça. Vous savez, quand dans les agences de pub, et moi je connais ce domaine, c'était mon boulot dans une autre vie, dans les agences de pub, il s'est passé exactement la même chose quand il y a eu les lois Sapin, qu'on a demandé aux agences de pub de se splitter entre les régies publicitaires et tout le reste de la pub, parce que les agences de publicité faisaient trop d'argent en concentrant deux aspects du métier, ce qu'on appelle les lois Sapin. Ben, en fait, ça a profité à qui ? Ça a profité aux très grosses agences de pub, et ça a tué les petites agences de pub. Donc c'est un peu ce qui est en train de se passer avec ces histoires dans le marché naissant des agences d'influenceurs. C'est que ça arrange aussi les grosses agences d'influenceurs qu'il y ait des bonnes et des mauvaises pratiques Parce que pour avoir des bonnes pratiques, il faut avoir une sacrée équipe derrière. C'est un peu ce que je vous ai dit. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, je vous ai dévoilé plein de trucs. Hein. Je ne sais pas si j'aurais dû. Hein. Non, en vrai, je ne suis pas la DGCCRF, mais je trouve ça hyper important de ne pas prendre les gens pour des cons. Ça, moi, c'est ma seule ligne morale sur la chaîne. J'essaye, la modestie, j'essaye de ne jamais vous prendre pour des cons. Quitte à me prendre des torrents de boue sur la gueule, ça, c'est pas grave. Mais j'essaye vraiment de ne pas vous prendre pour... Je vous prends pour des gens intelligents, en fait. J'ai peut-être tort, à vous de me le dire. Mais voilà, si je devais résumer ma ligne morale, elle n'est pas très compliquée. Juste, j'essaye de ne pas prendre les gens qui nous regardent pour des cons. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a toujours, nous... Mais on n'est pas parfait. Hein. Sur la chaîne, il y a des trucs qu'on pourrait nous reprocher et ils auraient raison. On n'a pas toujours été super clean sur certains trucs. On essaye de l'être au maximum. Voilà. Bon, sur ce, on va... Vous avez tellement un esprit de contradiction que je vous dis, je ne vous prends pas pour des cons. Et il y en a qui sont en train de me dire, mais si, je suis con. L'esprit de contradiction, c'est bien, mais il y a un moment où non. je vous fais des gros bisous à tous. Je suis désolé, je n'ai pas pu lire les commentaires de tout le monde. On a beaucoup de mal le vendredi, finalement, à faire des questions tech. On a tellement de choses à dire. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. 20% de chances que je fasse du streaming de jeux ce week-end. C'est pas beaucoup. Hein. Il n'y a que 20% de chances que je fasse du streaming. Mais c'est pas impossible, mais il n'y a que 20% de chances. Voilà. Autre chose que j'avais à vous dire, sur quoi je sais pas encore, en fait. Ça m'a un peu passé, Unshrouded. On verra. Bref. Une autre chose que je voulais vous dire, parce que j'ai l'info là, je serai dans l'émission de l'AMUA. Son émission tech mercredi prochain entre midi et 14h30. Je suis invité, j'ai l'immense honneur d'être invité par l'AM. J'ai plus le nom de sa chaîne là en tête, si quelqu'un l'a. Obsession, oui, c'est Obsession Tech. Option Tech, non. Donc j'y serai mercredi prochain. Midi à 14h30. Ça va encore dépouiller les petits fours. Il ne sait pas à quoi s'attendre. Hein. Faut pas qu'il me lance, hein, l'âme. Donc voilà. Sinon, on se retrouve mardi avec Marion pour le mug. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. C'est déjà pas mal, hein? Je vous fais des gros bisous. Passez un bon week-end. Je sais pas s'il fera plus chaud et plus beau, mais il fera beau dans vos cœurs. C'est ça le plus important. Pas Dylan, on n'a pas été invité. Oui, la chaîne, c'est l'AMUA. Bah voilà, c'est simple. L'AMUA. Allez vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et rendez-vous mercredi à midi. Je serai invité. J'ai le plaisir et l'honneur d'être invité par l'AM dans son émission mercredi prochain. Je vous souhaite pour la troisième fois un très très bon week-end. On va faire un raid, bien sûr. J'ai du mal à finir là aujourd'hui. Alors, un petit raid chez qui. Nota Bene, mais j'ai l'impression qu'il est en attente. Mais je vais peut-être quand même vous amener chez Nota Bene. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait de raid. Mais je crois que vous allez débarquer en salle. Ah non, il a démarré. Allez, je lance le raid. Bon week-end. Ciao tout le monde. Et moi qui n'ai pas lancé mon générique de fin. Il serait temps.